Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
C'est arrivé à moi. Une étrange fille, tout à fait l'envers d'une autre qui était venue un jour et ne s'en allait pas. Une fille offrant d'abord ce que l'autre ne m'avait donné qu'ensuite, achetant les boîtes pour leurs couvercles et réservant pour dans longtemps le plaisir de se découvrir ensemble, par exemple, à la même fumée deux cigarettes différentes, ronde vers le dehors et satisfaite comme de fournir des fruits, tandis que l'autre était creuse et secrète, comme d'aimer manger des coquillages. Je n'ai pas reconnu tout de suite qu'elles pouvaient l'une et l'autre toucher d'un doigt semblable un cercle de même rayon, et l'une et l'autre se toucher à travers des fenêtres semblables. J'avais déjà beaucoup à faire à ne pas me tromper d'œil pour les voir et à les toucher sans colère l'une après l'autre, comme les seins d'une troisième qui semblait me venir d'elle par moments. Étais-je seul dans leurs pensées et dans leurs quatre mains à la manière des pianos? Les vêtements que l'une m'enlevait étaient ceux-là dont au même instant je sentais l'autre me vêtir. Elles s'en sont allées, la perle de l'une à l'oreille de l'autre et inversement, tandis que je voyais mes mains faire deux ombres sur une seule table avec un seul soleil.
Bonsoir, cette voix qu'on entend, c'est celle de Roland Dubillard, à qui notre deuxième émission est consacrée. Cette voix très particulière d'un poète comédien, un poète qui a porté sa parole au théâtre. On l'a laissé dans la dernière émission, au moment après un drame familial violent, qui est le suicide de sa seconde femme, enfin de Nicole l'Admiral, dont il a une fille, Ariane, dont on va entendre d'ailleurs un bref interview après. Donc Roland Dubillard a la particularité d'avoir été un comédien estimé par tous. Il a tourné aussi bien avec Jean-Pierre Mocky qu'avec Gainsbourg, qu'avec Alain René, etc. Mais ça ne doit pas éclipser le grand poète qu'il est, le poète vivant qu'il est, parce que beaucoup de gens ignorent qu'il est toujours en vie, qu'il écrit toujours. Il a publié il y a quelques années un énorme recueil qui s'appelle Les Carnets en marche, qui est absolument indescriptible, qui est un mélange de réflexions, de poèmes, etc. Et évidemment, Roland Dubillard n'est plus sur scène, puisqu'il a été, en 87, victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu hémiplégique, mais qui, selon lui, ne l'a pas du tout arrêté. C'est un poète qui voyage tout le temps dans l'intérieur.
Voyage. Il y avait des touristes, sans doute, et des gens en deuil, préoccupés de quelques morts lointains. Il y avait des pèlerins aussi. Quelques nuages, au lointain crépuscule, à quelques-uns de ces voyageurs égarés faisaient signe. Était-ce ou non là-bas le véhicule du voyage? On ne se reconnaissait pas, et cela donnait à tous un œil rond, un œil globuleux. quelque chose de lourd comme aurait pu l'être un derrière pesait. Il le tenait étroitement par une laisse, une poignée, sans y faire attention, mais en y tenant. C'était eux leur valise, ce qu'ils emportaient d'eux-mêmes pour le présent et pour quelque temps du futur. Aux affolés qui n'osaient pas, ils ne répondaient pas non plus, car ils connaissaient trop de langues pour savoir jamais laquelle employer pour répondre. Le pouls. Entre deux pavillons d'antiques phonographes, deux rayons de laser sous des lunettes noires vous pénétraient, vous traversaient. La bouche de l'horrible pouls s'ouvrit sur la spire tournante d'un hachoir à viande. Deux sortes de marteaux-pilons aplatissaient sous ses insectes les rochers et le rendaient dangereusement ambulant. Sa panse avait l'aspect d'une bétonneuse au travail. Quels immeubles méditait-il en lui, et pour quel locataire? Il tendait ses deux mains vers nous, au bout de deux bielles huileuses. Ses mains, qui n'étaient autres que deux gros canifs suisses à 14 lames, dont des arraches-trucs, des percemures, des ciseaux de lingère, des poinçons, tire-bouchons, rasoirs, limes et scies. Le tout petit, mais d'une robustesse garantie. La question aussitôt fut dans tous les regards. « Que nous veut-il ? » Tu n'avais pu faire autrement que de marcher à côté d'elle, mais elle était plus haute à cause de sa taille ou du parcours que ses pas choisissaient. « Boitait-elle ? » Tu l'avais supposé un instant, mais non, si ce n'était qu'à chaque pas, on l'entendait qui changeait de père et de mère. Quant à toi, tu n'en avais pas et ne voulais pas en avoir. Tu disais « Comme vous êtes, et comment serez-vous, et pour qui ? » Tu ne t'approchais pas d'elle, pourquoi ? C'est que c'était si semblable à la vérité d'être loin.
Je suis avec Ariane Dubillard. Bonjour Ariane.
Bonjour Michel.
Tu es la fille de Roland Dubillard.
Oui.
Voilà, on se connaît bien parce qu'on a fait beaucoup de choses autour de cette œuvre. Et je voulais te poser quelques questions, évoquer avec toi, faire une sorte de portrait de Roland. Tu viens de me dire, là, hors micro, une chose déjà qui est un peu étonnante. Roland Dubillard est né rue du Bac.
Oui. Hein,
et il est revenu y vivre à peu près à l'époque où, je pense, tu es adolescent.
À l'époque où il a rencontré Maria Machado, qui avait un appartement rue du Bac, donc à vraiment la maison d'à côté de celle où il est né. C'était le 108 rue du Bac et c'était une maison assez extraordinaire parce que notre voisin d'en dessous, c'était Romain Gary. Et au-dessus, on avait la petite fille de Matisse et la belle-fille de Marcel Duchamp. Et donc, c'était quand même une maison assez... Et puis, il y avait Alexandre Troner aussi qui partageait l'appartement avec nous. Donc, c'était une maison, oui, très, très inspirée, très inspirante et assez mouvementée.
D'accord. Alors, mouvementée, dans quel sens ?
Les artistes, en tout cas, mon père, c'était à l'époque où il jouait... Moi, quand je commençais à venir le voir rue du Bac, il créait le jardin aux betteraves. Donc, c'était quelqu'un de très tourmenté à l'époque. Hein. Donc, ça remuait beaucoup. Quoi. Il avait quand même pas mal de difficultés, de problèmes d'alcool et de création. Et donc, voilà. Je le rencontrais toujours le matin, tôt dans la cuisine. Il travaillait beaucoup la nuit.
D'accord, c'était un homme de la nuit.
Il écrivait beaucoup la nuit, ouais. Il écrivait beaucoup la nuit. Je crois qu'il a écrit quasiment toute la boîte à outils à cette période-là, et principalement la nuit.
Dans la revue d'esthétique là, qui nous a servi un peu de base à préparer ces émissions, et en fait, il semble que la boîte à outils, il écrit sur une très longue période.
Oui,
il a commencé
il
en 1953,
oui,
je crois qu'il est paru en 1967 ou quelque chose comme ça.
Oui, il a commencé à ce moment-là, mais disons qu'elle s'est finalisée... dans ces années-là, quand même, de la rue du Bac, je pense. Disons que c'est là qu'il a commencé à en parler beaucoup, et puis qu'il l'a terminé, oui, en tout cas.
D'accord. Ouais. Bon, quand je disais Bac, parce que j'ai l'impression que cette période est quand même une période un peu plus heureuse, en tout cas plus stable.
Je dirais que la période la plus heureuse, pour lui, c'est maintenant, bizarrement.
C'est maintenant, oui,
je dirais
tu peux
depuis,
nous dire ça.
Oui, depuis,
plus en détail.
Depuis quelques années, déjà, il a toujours, toute sa vie, été donc avec avec beaucoup d'alcool et de médicaments. Puis depuis quelques années, il a eu un jeune homme qui s'est occupé de lui... et qui était passionné de médecine naturelle et qui a décidé de le sortir de tous ces médicaments qu'il prenait depuis des années et des années. Et puis ça a été assez extraordinaire parce qu'il a réussi, ce jeune homme, et on a découvert quelqu'un d'assez différent en fait. Disons, ouais, il va bien maintenant. Donc je me dis que voilà, il a encore des choses à vivre. J'ai l'impression qu'il retrouve un naturel très ancien, d'avant toutes les difficultés. Je crois qu'il a été très très perturbé très jeune par les morts de ma mère, bien sûr. Je crois que ça a été un grand choc.
Donc de son père aussi, il a eu
son père avant, bien sûr. Et puis en jeune adulte, oui, ça a été difficile pour lui. Donc voilà, peut-être que maintenant il est apaisé enfin.
Il y a bien plus encore de dames que de nuits. Il y a des dames pires que les oiseaux. Il y en a de craies, de gâteaux mêlés qui font des crêpes, qui font des cygnes. Il y a des dames trop larges pour habiter Paris. Il y en a qui sont si hautes et si fermes qu'on s'attend à les voir à chaque instant redevenir courtes et molles. Il y en a qui sont terribles parce qu'elles n'ont pas de moustache. Il y en a beaucoup qui ont éclaté sur les choses et c'est pourquoi tant de choses sont colorées. Il y a des dames qui voudraient qu'on les croie responsables des marronniers. Il y en a qui vous font venir dans la bouche des pêches. Il y en a qui jouent du violoncelle en vous regardant dans les yeux. Il y en a qui, par malheur ou par étude, sont devenues des veuves. Bien des veuves sont contagieuses. Il y a des dames qui vous invitent à descendre et des dames horizontales qu'on promène dans les cortèges. Il y a des dames qui sont où il ne faudrait pas. Il y en a qui comptent les inconnus. Il y en a qui perdent la tête quand on leur parle du hasard. Il y a des dames qui voyagent. Il y en a des transparentes qui collent leurs lèvres aux vitres. Il y en a qui sucent les blessures. Il en est d'autres qui se servent de vos poumons pour respirer. Il y a des dames visibles et qui le savent. Il y a des cuisses qui sont des dames. Il y a des dames écrasées qui restent debout pour vous plaire à la manière des murailles. Il y a des dames sans fin dont l'homme ne s'aperçoit plus. Il y en a qui voudraient bien être des dames mais qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a d'assises à cause de leurs jupes. Il y a des dames qui frappent et qui fondent en larmes quand elles entendent l'écho. Il y a des dames aussi qui se promènent sur des dames pour connaître mieux la nature. Et il y a des dames. Et il y a des dames.
Et il y a des dames.
Et il y a des dames qui sont des hommes.
Quatre poèmes d'amour.
Si quelqu'un sourit à te voir, s'il te regarde avec bonheur, c'est que ton corps n'a plus la force de lui cacher derrière toi, le mur. Enfant qui tète sa mère, bientôt sa mère le détestera avant de lui ôter la tête. Les yeux commencent par un point. La douleur les allonge vers le bas, le regard tire d'eux l'horizon, et il faut compléter le triangle toute sa vie avec les mains. Ce qui sort de ta bouche, c'est d'abord la fumée d'une cigarette, et puis c'est tout le reste.
Si tu es en première, quand je suis en seconde, qu'est-ce donc qui s'est décoiffé ? Où est la brosse ? Où est le peigne ? Où est le vent ? Où est la chevelure ? Soleil par qui les feuilles sont des lampes transparentes. Orgueil par qui les filles montent dans les wagons rouges. honte qui donne à l'homme une allumette vite éteinte. Quand de l'eau entre dans la noix par la fente de sa coquille, chaque moitié sur l'eau qui noie bientôt peut-être flottera. Si je monte au palais royal, quand tu descends au Châtelet, les rails restent si parallèles qu'on voudrait être des roues.
Parfois, d'un moment, tu peux dire qu'il est 8 heures ou que c'est le moment de remonter ta montre. Mais tu diras bien autre chose, pour peu qu'à ce moment un autocar t'écrase. Or, il y a toujours quelque chose qui nous écrase, ne serait-ce que notre poids. Et ce qui nous écrase, comme un autocar, est parfois plein de militaires joyeux. À tout moment, il faut les mentionner aussi.
Je lui ai crié « Madame, madame, votre parapluie, je crois, s'est ouvert. Fallait-il plutôt ne pas le lui dire ? Le fermer de force, ne pas l'avoir vu, se mettre en colère. L'aurais-je quitté de toute manière, aussi las de vivre ?
Nous parlons de Roland du Billard, poète comédien. On a entendu sa voix au début de cette émission et on va revenir un petit peu sur ce personnage assez incroyable parce qu'il a, il a côtoyé tout ce qu'il y a de plus connu dans l'époque de disons des années 50, 60, 70, quand on pense qu'il a joué sous la direction de, enfin, ses propres pièces d'ailleurs mises en scène par Roger Blin, mais parmi les gens qu'il a côtoyés ou qui ont même joué des pièces qu'il a écrites, il y a Darry Cole, André Dussolier, on l'a vu, il a tourné beaucoup plus tard certainement avec Gainsbourg. Gainsbourg. Donc il y a, peut-être on le connaissait surtout comme comédien, et peut-être on pourrait dire, qu'est-ce qu'avait de particulier ce comédien ? C'était sa voix, d'abord, comme on l'a entendu, mais c'est aussi une espèce de distance totale avec ce qu'il dit. Rien de psychologique dans son théâtre, c'est une espèce d'interrogation permanente. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré pour préparer cette émission d'un très beau, très complet ouvrage qui a été publié par Jean-Michel Place, édition malheureusement disparue, qui est consacrée à Roland du Billard, qui est la revue d'esthétique. Et il y a là-dedans plusieurs interviews de comédiens qui racontent comment du Billard les dirigeait. Et souvent, c'était dans le sens d'en enlever. Enlever toujours plus, retirer, comme Kundera dit que écrire, c'est souvent rayer. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Il disait, par exemple, il donnait comme indication à un artiste, à un comédien qui va entrer en scène, récite-toi une prière, un pater noster, avant de dire ton texte, et continue à te le réciter dans ta tête, tout en disant ton texte une fois que tu es rentré en scène. Donc une espèce d'immense distance qui n'a rien à voir avec tout un théâtre psychologique. Voilà. Donc il va jouer, il va être très demandé, parce que cette particularité se ressent, à la fois cette voix extraordinaire, cette distance, cette économie de moyens, ce qui fait qu'il va être très très demandé, et il va jouer dans énormément de pièces, les siennes, mais aussi des tas d'autres. Il va jouer dans des émissions de télé, il va commencer à faire des tournées internationales, y compris avec deux grandes pièces de lui qui sont Naïves hirondelles et La Maison d'Os, qui est une de ses plus grandes œuvres, qui est, on peut dire, une sorte de poésie en théâtre, qui raconte une sorte de révolte de domestiques contre un maître d'une maison, mais il n'y a aucun... Enfin, tout se passe à l'intérieur des gens. Voilà. Donc cette période, c'est aussi la période à laquelle il va rencontrer Maria Machado. Enfin, il l'a déjà rencontrée comme comédienne, hein. Elle devient sa partenaire au théâtre. Maria Machado, pour la situer un peu, c'est dans un film qui est très très populaire, c'est L'été meurtrier. Maria Machado joue la mère d'Adjani dans L'été meurtrier. Voilà, qu'on se resitue un peu le personnage, hein. Et donc il va se produire avec elle, et puis il va finalement mener sa vie avec elle aussi. Voilà. Donc on va peut-être passer à la suite des choses. Vous voulez peut-être nous lire un petit extrait de La Maison d'Os, Yves et Jean-Claude?
Puis-je me permettre de poser à monsieur une question?
Monsieur peut se permettre tout ce que monsieur désire.
Je remercie monsieur. Eh bien, puisque monsieur me permet, monsieur, y a-t-il longtemps que monsieur est au service de monsieur ?
Nous sommes très honorés que monsieur veuille bien s'intéresser à nous. Nous sommes au service de monsieur, monsieur, depuis 8 ans et demi. Et monsieur voudra bien reconnaître que nous y avons quelques mérites.
Comment ? Monsieur voudrait-il dire par là que déjà... Il y a 8 ans et demi, monsieur vivait.
Monsieur le baron?
Monsieur le baron.
Monsieur me pardonnera, mais je ne comprends pas bien monsieur.
Je présente mes excuses à monsieur, je ne me suis pas bien fait comprendre.
Du tout, monsieur. Nous avons des oreilles pour écouter, monsieur.
J'ai peur d'ennuyer monsieur, mais monsieur n'aura pas de mal à juger de ma surprise. Que monsieur veuille bien... Considérez ce vieillard au service duquel monsieur est au service, si j'en crois les dires de monsieur depuis 8 ans et demi.
Monsieur veut dire monsieur le baron ?
Tout juste, monsieur. Ce vieillard. Ce vieillard auquel il ne manque plus que la parole, monsieur. Et l'ouïe, et l'usage des gens, mais qui ne peut plus, sauf le respect que je dois à monsieur, qui ne peut plus, monsieur, qui ne peut plus de nulle part, et qu'il faut nourrir avec une paille... un compte-goutte et un goupillon. Ce baron, en un mot, monsieur me fera l'honneur de croire que jamais, monsieur, jamais je ne pourrai retenir un sourire de doute, lorsque monsieur me dira, comme monsieur vient de me le dire, qu'il y a 8 ans, déjà ce vieillard, ce baron, ce débris à peine humain existait déjà.
Nous ferons respectueusement remarquer à monsieur... que monsieur prend le temps à l'envers. Monsieur peut avoir confiance en la sincérité de mes propos. il y a 8 ans et demi, ce débris humain, non seulement ce baron, la vieille ordure, comme nous l'appelons ici, existait déjà, mais encore, monsieur, elle était plus jeune.
La vieille ordure.
Plus jeune de 8 ans et demi, la vieille ordure.
Je suis confus, monsieur. Ma bêtise est inexcusable, monsieur.
Monsieur veut rire.
Je prie seulement, monsieur, de vouloir bien se souvenir que je suis au service de la vieille ordure, non pas depuis 8 ans et demi, comme monsieur, mais depuis 2 jours à peine. Et je dois avouer à monsieur que j'en suis à mon premier vieillard.
Oh, monsieur s'habituera certainement. J'écoute, monsieur.
À vrai dire, m'habituer, si j'ose l'avouer à monsieur, j'espérais n'en avoir pas le temps. Car c'est à bon escient, monsieur, que j'ai abandonné mon service de cette traînée dont j'ai parlé à monsieur, la vicomtesse de prime abord. J'avais, monsieur me passera l'expression, j'avais envie d'un vieillard. Je l'ai trouvé, mais ce vieillard, monsieur me permettra d'être franc, ce vieillard, j'espérais malgré tout, au bout de quelques mois, voire d'une année, j'espérais...
Qu'il mourût.
Monsieur connaît ses classiques, eh oui. J'ai choqué monsieur.
Mais non.
Je le sens bien, monsieur.
Je serais navré d'avoir donné une telle impression à monsieur.
Oh, je le vois bien que monsieur n'a pas l'air content.
Puisque monsieur insiste, j'avouerai à monsieur, mais seulement si monsieur me promet de ne pas se fâcher.
Monsieur me connaît. Monsieur sait que je suis dans la domesticité depuis près de 20 ans.
Eh bien, s'il en est ainsi, j'avouerai à monsieur que je souhaite à monsieur d'être flanqué à la porte le plus vite possible par la vieille ordure. Monsieur est trop intelligent pour supposer qu'après 8 ans et demi de patience, 17 ans de patience en tenant compte de la patience de ma femme, à laquelle ce parquet, monsieur, doit son éclat, car ma femme est cireuse dans cette maison, elle cire tout, même la vieille ordure, qui trouve la chose agréable. À son âge, on aime les sensations fortes. Monsieur m'excusera. J'ai perdu la queue de ma phrase. Ah oui, monsieur a trop d'expérience pour supposer, ne fût-ce qu'un instant, que j'ai plaisir à voir monsieur s'installer tranquillement parmi nous au moment où la vieille ordure ne saurait tarder à nous claquer dans les mains, à l'instant où le cadavre est mûr, parmi nous qui avons tellement attendu et qui sommes déjà, sans compter plusieurs qui sont morts, 43 domestiques. Du reste, monsieur aurait tort de se faire des illusions. Certes, la vieille ordure est riche, sa famille est éteinte, mais le testament est rédigé depuis longtemps et il ne sait plus écrire.
Je remercie monsieur de toutes ces informations. Néanmoins, j'attendrai, si monsieur me le permet.
Merci, monsieur. Monsieur peut m'appeler Firmin.
Merci, monsieur. Monsieur peut m'appeler Firmin. Ce n'est pas votre peau qui fait que je vous vois, car je la vois à peine. Ce n'est pas votre peau que j'aime, mais je n'aimerais pas une femme de bois. Ce ne sont pas vos 2 jambes qui font que vers vous, malgré moi, vont les miennes. Je vous aimerais moins si vous en aviez 3 cependant, même en porcelaine. Vos cheveux sont-ils bruns ou blonds, comme les embruns, comme les houblons? Mais si vous n'aviez qu'un cheveu, je n'aurais pas vu votre tête. Et ce n'est pas non plus que vous soyez semblable par les yeux comme les chiens et par le sourire qu'ont aussi les statues à toutes celles que j'ai vues ce soir au tourbillon du sable mêler le rond nuage de leurs pieds. Car vous pouvez marcher comme elles. Vous n'allez pas vers des lieux inconnus. car vous pouvez vous confondre avec elle. Je suis celui qui toujours vous reconnaîtra. Aiguille. Mais la plus aiguille entre toutes les aiguilles. Pomme d'arbre. Île d'archipel. Et parmi les oiseaux irréels, le réel oiseau de mes ailes.
Voilà, nous rendons hommage à Roland du Billard, dont Jean-Claude vient de dire un texte. On l'a laissé donc au moment, donc on disait qu'il allait se marier avec Maria Machado, qui l'accompagne depuis, je crois que c'était en 75 qu'il se marie. Mmh. Après avoir beaucoup collaboré dans le théâtre, y compris d'ailleurs avec des pièces de David Mercer, qui était le premier mari de Maria Machado. Et Roland du Billard va aussi dans cette période-là, donc qui est une période dont Ariane, sa fille, nous a parlé, où il s'installe à la rue du Bac avec tous ses voisins prestigieux, Romain Gary, etc. Roland du Billard va donc aussi s'associer avec Claude Pieplu pour jouer les Diablogues. Il tourne également, il fait beaucoup d'émissions de radio. Il crée le Bain de Vapeur au Théâtre de l'Atelier, toujours avec Philippe de Chérizet, qui était l'Amédée d'Amédée et Grégoire. Et puis, il commence aussi il collabore avec des tas d'auteurs. C'est un moment de reconnaissance un petit peu, hein, puisqu'il est, il fait partie d'une commission avec Pinget, Ionesco, Baldia. Autour d'un projet de théâtre d'auteur, enfin on le retrouve à la radio, il monte des pièces de Romain Weingarten, qui est son ami depuis la guerre. Il commence à tourner de plus en plus au cinéma, et on va le retrouver également, dans les années, j'ai oublié de dire aussi, parmi les textes importants, il y a Olga Mavache, hein, qui est une sorte de toujours autour du théâtre, autour de la réflexion de est-ce que c'est important de vouloir dire beaucoup de choses. Olga Mavache, c'est un récit où on s'aperçoit qu'une vache qui a été engagée au théâtre est 10 fois plus expressive que tous les comédiens qui essayent d'en faire des tonnes, quoi. Enfin, et c'est un récit sur cette vache qui essaye de parler, hein. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu pendant, enfin, bien que ça ne soit pas du tout la même histoire, enfin bon, on voit que les animaux ont une part très importante, puisque une autre pièce, c'est Où boivent les vaches, hein, qui a été monté d'ailleurs par Planchon avec, je crois, une vache sur scène, ce qui d'ailleurs a mis pas mal en péril, d'après ce qu'on dit à l'époque, les comédiens qui jouaient avec elle, quoi. Pardon. Et puis il y a aussi cette autre pièce extraordinaire qui s'appelle Le jardin aux betteraves. Hein, donc on ne peut que renvoyer nos amis auditeurs qu'à lire, hein, ces œuvres extraordinaires. Il n'y a rien de publié en poche à part les Diablogues, je crois. Mais par contre, on trouve dans la collection Blanche toujours Je dirais que je suis tombé et La boîte à outils, qui ont été réunis maintenant, qui sont les principales œuvres poétiques. Voilà. On va peut-être réécouter maintenant d'autres textes, hein. Femme au secours d'un homme, peut-être qu'il résume un petit peu ce dont on vient de parler.
Femme au secours d'un homme. Écoute-moi. Au creux de la bouée, j'ai mis mon amour dans le tien. Va. Ton bonheur passé, mon bonheur flotte là-haut, dans la nuit, pleine de l'enfance d'un soleil petit, puis grand, puis disparu. Toi, ma seule rencontre, dans le matin d'hier, va, tu peux t'endormir. Va, nous pouvons nous quitter pour descendre. Ta mort est dans ma mort. Va, quitte-moi plutôt riche entre nous de tant d'absence. Les noyaux des pruniers se souviennent des fleurs. Accepte un bout du fil que tout le monde prend pour traverser la nuit. Tu vois, j'emporte l'autre bout. Même enroulé autour de la colonne de la ville, dès ton réveil, dès mon réveil, ce fil me tirera de mon absence à ton sourire, à ta présence. Et moi, je te dirai « Bonjour !»
Chaque soir, à la même heure, au même angle des corridors, je passais à travers elle. sans me rendre compte d'abord. Puis peu à peu, à force de la traverser ainsi, j'appris d'elle et de sa personne quelque chose qui déjà appartenait de longue date à ce qui fait le cours de mes pensées. Quelque chose, oui. Je ne le savais pas, mais c'était son prénom. Ce que je ne savais pas, c'est quoi en faire. Son prénom, donc. À chaque fois que nous nous traversions ainsi l'un l'autre, à partir de ce moment, donc, je sentais son prénom se prénommer en moi. Et j'avais mon prénom en moi aussi, sans savoir bien qu'en faire. Mais à chaque fois, allant vers cette croix de corridor, oui, et quand sans le faire exprès nous passions par ce point et que nous nous traversions, j'espérais que mon prénom montait en elle comme le sien en moi.
La baignoire s'est endormie avant ce baigneur de minuit. Lui, les yeux grands ouverts, il écoute, dans la lumière, un bruit qui ressemble à celui que ferait un nuage en visite, la nuit, dans un couloir d'un magasin de meubles. Et quand la vidange a fini d'effacer l'eau du bain, qu'elle reste la bouche ouverte et respire comme un visage d'ange, le baigneur nu, lentement, cesse d'entendre ce que n'entendent pas les dormeurs. Il écoute maintenant quelque chose d'autre et de lointain. Est-ce encore un nuage qui parle? C'est une foule à peine distante qui murmure, ou plutôt une voix étrangère dans cette foule, une voix qui ne sait pas parler, mais lui, de toutes ses oreilles, nu dans son absence d'eau, par l'oreille du trop-plein, il entend des mots d'amour qui s'adressent à lui seul depuis l'autre côté de la nuit. Les mots qu'il sait bien, qui sont les seuls vrais mots d'amour et qu'il ne connaissait pas.
C'est de silence et de nuit qu'on a besoin parfois. Et à la surface des planches, de toucher la présence du bois. À la surface de la nuit, pouvoir tremper le doigt dans le remous de l'âme circulaire. On fuit la musique, moulin à café de nos constellations de lumière. On fuirait même le crapaud avec les bulles de sa peau faisant son bruit. Et même jusqu'à son propre cerveau, on n'en veut plus, ni de ses sifflements. C'est l'arbre et son bois légendaire qui suscite en nous le verbe être. C'est de la fibre, ça s'allonge, ça dure, et ses nécessités. On est emporté sous l'écorce par le courant du bois d'être et d'avoir été.
L'autre question que je voulais te poser, elle concernait le paradoxe qu'il y a, enfin quelque chose qui nous a beaucoup frappé en lisant cette vie d'une richesse incroyable, c'est que il a concentré autour de tous les gens qui ont lu cette œuvre une grande ferveur, et en même temps le fait que, bon, malgré quelques hommages officiels, il reste quand même en marge, comme dit d'ailleurs le titre de son livre des cahiers en marge. Tu pourrais nous faire la part des choses qui reviennent à lui, qui reviennent à l'époque?
Oui,
qui revient au fait que... peut-être qu'il était comédien aussi, et que c'est un type de poète assez particulier.
Oui,
ça, quelqu'un qui a une expérience formidable de l'oralité, oui. Du contact direct, du jeu.
C'était un acteur formidable, hein. Je dis c'était parce qu'il ne joue plus donc, depuis l'hémiplégie qu'il a eue il y a plus de 20 ans maintenant. et c'était un comédien extraordinaire. Mais peut-être c'est ça, oui. C'est peut-être qu'il avait trop de... On dit aujourd'hui des casquettes, c'est un peu bête, mais il avait trop d'aspects différents ça, de ce qu'il était. Il n'était pas simplement un grand comédien, mais en plus c'était un poète. Peut-être aussi les poètes ne sont pas destinés à être extrêmement célébrés de leur vivant, je ne sais pas. Peut-être aussi c'est parce que ce n'est pas une poésie très engagée dans le monde qu'on vit, enfin dans lequel on vit. La poésie de Roland, c'est très subjectif.
C'est subjectif.
C'est son monde intérieur et notre monde intérieur, bien sûr. Je ne saurais pas te dire pourquoi il me semble qu'il a toujours été en marge dans sa façon de vivre et puis qu'il s'en fichait complètement en fait d'être dans le monde en fait. Et donc il avait très peu d'amis réels avec qui il passait du temps. Enfin, il avait peu de relations finalement. C'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de solitude, je crois. Ça favorise pas vraiment la notoriété, je pense. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où on lui a proposé de jouer des très grands rôles avec des grands metteurs en scène, mais souvent il a refusé parce qu'il préférait faire ses propres choses, déjà, les choses qu'il écrivait lui. Donc il aurait pu être un acteur, par exemple, beaucoup plus célèbre qu'il n'a été. S'il n'avait pas refusé, préféré faire ses propres choses que d'accepter... des rôles proposés par des metteurs en scène. Et puis sinon, sur l'écriture elle-même, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire pourquoi il n'a pas... C'est quelqu'un absolument pas mondain et quelqu'un qui avait qui faisait aucun effort pour aller vers les gens. Ça, c'est peut-être quelque chose que je lui reprocherais, quoi. Je trouvais ça pas forcément sympathique.
On va peut-être pas finir sur cette note-là. On pourrait dire juste, si tu avais 4 ou 5 qualificatifs à lui poser, lesquels tu choisirais ?
Il est très très proche de l'enfance. En tout cas, c'est l'enfance, c'est quelque chose de très fort pour lui. D'ailleurs, il supporte que les enfants, je dirais, encore aujourd'hui. C'est vraiment ça qui le touche le plus. Il aime rire. Et je pense qu'il a le rire, enfin cet humour, il est très très important pour lui aussi. Il a une espèce de gravité. Moi, j'aime beaucoup je suis touchée par son côté métaphysique, le côté métaphysique de son écriture. Ça me touche beaucoup et j'aime aussi beaucoup le fait que ce soit toujours un peu entre deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut être très très concret et s'amuser avec des choses très prosaïques. Et puis tout d'un coup, ça s'envole. Vraiment, on a une dimension de l'envol comme ça dans son écriture. Et dans les choses drôles, il y a tout d'un coup cet aspect d'ouverture. Et puis dans les choses tragiques ou graves, il y a aussi tout d'un coup le rire qui peut surgir. J'aime bien ce côté double. Et ça, il l'a en lui complètement. Il peut être très grave et très drôle d'un moment à l'autre. Enfin, comme un enfant.
Voilà, donc on pourrait dire une enfance rieuse et grave.
Oui, voilà.
Merci.
La braguette à papa avait 5 ou 6 boutons. La braguette à papa avait 6 boutons tout ronds.
6 boutons ronds,
maman l'en a arraché un. Moi j'arrachais tous les autres. La braguette à papa, elle est dans un triste état. La braguette à grand-père, c'est une fermeture éclair. La braguette à grand-père ne suce que si l'on s'en sert. Elle lui passe entre les genoux, elle lui remonte jusqu'au cou. La braguette à grand-père, c'est là qu'il y met grand-mère.
La braguette au patron, c'est une braguette en béton. La braguette au patron, on ne sait pas ce qui se cache dans le fond.
L'or c'est dans la Banque de France, les idées c'est là où je pense. La braguette au patron, fouille dedans y'a pas un rond. La bragueta baïa avait des boutons en phare. La bragueta baïa en s'ouvrait qu'à coup de pétard. Pour piser, il y avait une boutière, comme chez tous les condottières. La bragueta baïa s'ouvrait qu'à midi moins le quart.
La braguette à maman,
la braguette à maman,
c'est là qu'elle met son argent,
elle y met son argent.
La braguette à maman,
la braguette à maman,
croque les sous avec ses dents,
croque les sous avec ses dents.
Je n'y vois pas souvent mon père,
souvent mon père,
dans la culotte à ma mère.
La braguette à maman,
avale tout, avale tout quand ça lui prend. La braguette à bibi, elle me sert à faire pipi. La braguette à bibi, c'est là que je mets mon zizi. C'est là qu'il mange et qu'il dort. Quand on y rentre, il en sort. La braguette à bibi,
la braguette à bibi,
c'est une vraie boîte à outils.
Voilà une boîte à outils que j'ai eu le plaisir d'interpréter avec Rocavé et Ariane Dubillard à Capella dans un cabaret Dubillard, et qui dit bien que la boîte à outils de Roland Dubillard est universelle. Elle concerne aussi des outils que nous portons tous. Voilà. Donc, on parlait de cet homme de cinéma incroyable, de cet acteur incroyable, parce que peut-être aussi cette immense variété qu'il a dans ses tons, il l'a prise aussi certainement de son métier d'acteur. Il a quand même tourné avec un nombre de réalisateurs incroyables. Il a tourné avec Jean-Pierre Mocky, il a tourné dans La Grande Lessive, il a tourné dans Le Témoin, qui a un rôle incroyable où il joue un commissaire homosexuel. Il a tourné avec Gainsbourg dans Charlotte Forever. Il tourne aussi dans Les WC étaient fermés de l'intérieur de Patrick Lecomte. Il a tourné avec Yannick Bellon également.
40 films, c'est
40
beaucoup,
films,
hein.
Quelque part, quelqu'un. Et puis, il faut dire aussi à son honneur que c'est quelqu'un qui est toujours en train de... Il a tourné avec Robe Grillée aussi, je crois, la Captive.
La Belle Captive.
La Belle Captive, voilà, c'est ça. Et il continue, il écrit énormément. Il écrit aussi à je ne sais pas si on dit à quatre mains, à deux mains. Il, par exemple, en 78, il tente avec son ami de très longue date, Romain Weingarten, il écrit un roman où il se passe en alternance le récit, quoi. Ça s'appelle Aller-retour, justement, voilà. Et puis, il traduit aussi, il traduit David Mercer, il traduit aussi des textes de théâtre, comme La culotte d'une jeune femme pauvre de Karl Sternheim, je ne sais pas comment on le dit, excusez-moi. Voilà. Et puis, il continue à écrire ses propres textes, Les chiens sous la minuterie, Les crabes qui sont joués à la Bastille, et puis, enfin... Il ne les joue pas, là, ça c'est mis en scène par d'autres, parce que arrive effectivement en 87 cet événement, voilà, qui est une sorte de cassure dans sa vie. Donc il a un accident accident vasculaire cérébral qui le laisse hémiplégique. Mais cet accident est une sorte, comme il le dit lui-même, de retournement dans sa vie et peut-être de chance de quelque chose, quoi, qui le fait, pour cet amoureux du silence, se retirer de la mondanité, puisque comme l'a dit sa fille, dans l'interview qu'on vient d'entendre, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ça. Voilà.
Donc mais ça ne l'empêche pas d'avoir toujours une activité très importante.
Alors voilà, c'est ça qu'il faut dire pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que Roland Dubillard a continué d'écrire. Hein. Quand j'ai monté ce cabaret Dubillard, c'était en 99, donc c'était 12 ans après cet AVC. Donc moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, côtoyé. C'était quelqu'un qui a toujours un esprit, un humour absolument incroyable, et peut-être une espèce de dignité que lui donne ce fait d'être à la fois parcimonieux dans ses paroles, parce qu'il a du mal à parler, mais il parle très bien, et il a surtout publié donc en 99, je crois, à la même époque, les Carnets en marge, qui sont une énorme somme. Il a été aidé pour ça, par quelqu'un qui faisait un travail un peu de secrétaire, mais enfin, il a toute sa tête et il continue d'écrire, il continue de c'est son activité principale, à part le fait de contempler les choses, évidemment.
Et en 98, il met en scène « Je dirais que je suis tombé » à Avignon.
Donc il est l'invité d'honneur du Festival Avignon en 98, et c'est lui qui dirige les comédiens qui jouent sur scène. Ça s'appelle « Je dirais que je suis tombé » parce qu'il a repris le titre de son recueil de poèmes, mais en fait, ce sont des extraits de plusieurs de ses pièces qui sont jouées par Maria Machado, je crois Charles Réal, et Romain Bouteille, qui a été aussi un de ses compagnons, quelqu'un qu'il a côtoyé beaucoup dans le cabaret et dans le théâtre. Voilà, on va peut-être écouter une prophétie de Roland du Billard.
Tu choisiras d'abord le pied de ton escalier, puis sa première marche pour prier vers le haut, vers où c'est qu'il se passe des choses. Puis tu ressentiras des torsions dans ton nez, issues d'en haut, avec l'appréhension que viennent se nouer dans tes genoux des nœuds contraires à la vie, avant-coureurs de l'ankylose, et des douleurs rhumatismales qui forceront ton dos à incliner vers le sol sa courbure. Tu diras oui, tu diras non, tu seras douloureusement de la nuque aux fessiers sous un nouveau régime. Alors, toujours fidèle à tout escalier qui t'élève, la bouche ouverte vers le haut, tu sentiras un escalier se visser dans ton dedans et t'attirer vers elle, ses mystérieuses hauteurs. Mais de quelle hauteur s'agit-il ? Il y en a partout, il y en a que par tant de bassesse. Et une fois à la hauteur de tes hauteurs, de toi, que feront-elles ? Je n'en sais rien, dit l'autre inspecteur des contrôles. Je sais qu'il faut avoir confiance en tout, quoi que ce soit. Boudin, je vous connais, mes oncles, aspirés hors du cochon par leurs aspirateurs d'entrailles, et vous aussi, serpents entrelacés à nos viscères. Je vous connais, mes os, mes canalisations et mes murs. Vous qui rampez dans l'œuf du ventre, vous qui rampez aussi sur les parois du labyrinthe interne à mes oreilles. Mais oui, tuyaux, je vous connais, tripes de l'eau qui me parcourent jusqu'au terme de vos gargouilles, tuyaux. Ah, mes exemples dont je veux suivre les conduites. Ah, vous ne manquez pas. Ah, vous n'êtes pas rare. Ah, tuyau sans qui mon corps s'en irait par vapeur, paix par paix, mot par mot. Mon corps effiloché par hurlement, mon corps parti sans espoir de se revenir, ou si c'est oui, dans quel état ? Ni de se recoucher dans le corps qu'il se souvient d'avoir été, et moi, dans ce dénuement où je resterai, ô mes tuyaux, sans vous, mais aussi moi sans moi, je me réveillerai à la surface d'un pré du matin, dans l'ahurissement d'un brouillard qui se lève, oui, hésitant. Je me lèverai comme n'importe qui dans peu importe quel brouillard et peu importe où que ce soit, et la bouteille du bouchon sous mon nez, voilà bien cela, sentir ce peu de moi, ce peu de fumée qui s'échappe dans la myopie de mon regard et dans la poussière des cloisons du ciel éclatées.
Vivre, mourir, n'est pas un genre qu'on se donne. On ne fait pas le geste de tomber. N'augmente pas du choix des poses le poids des choses. Est-ce l'oiseau qui chante ou le chant qui s'emplume pour connaître le goût des graines? L'oiseau pour la graine est-il un violon dingue? Est-ce pour épargner au ciel la vue du sommet de ton crâne que tu portes ce grand chapeau? La pluie semblable aux larmes tombe, dit-on, comme un regard. Les ailes et le vol sont de l'ordre du ciel. Ils emportent l'oiseau, car l'oiseau n'a pas peur. Est-ce que la fumée tombe du ciel sur le feu pour y rebondir et le trahir? Et qui sait boire, qui sait nager mieux que l'eau? Qui sait aussi se noyer mieux qu'elle? Vivre, mourir, n'est pas un genre qu'on se donne. On ne fait pas le geste de tomber. N'augmente pas du choix des poses le poids des choses.
J'ai trouvé un caillou. Il est le caillou de ma vie. Il est mon caillou. Et je l'ai trouvé, et d'un autre caillou je ne voudrais point. J'ai trouvé le point de ma vie, et lui, il est le point, et d'un autre je ne veux point. J'ai trouvé le point de mon caillou, et j'ai trouvé la vie de mon caillou, et mes mains ont trouvé le doigté de leur vie. Et moi, j'ai trouvé la clé de mon armoire, et trouvé l'asphyxie de mon armoire, et dedans aussi les draps de mon lit, et puis... j'ai trouvé les draps de ma mort et le tissu de mes draps.
Invocation. J'écrivis que je ne chantais pas, ni les armes, ni les hommes, ni les outils de ma boîte à outils. J'écrivis à qui? À rien du tout. J'écrivis, et puis je n'écrivis plus. Je me sentais inquiet. On m'encouragea. Quoi donc? A pas peur, bébête? Si, j'ai peur. Alors donne! Et moi j'obéis. Tant d'étoiles contre ma bougie. Tant pis, je donne. Et avec ça, la prime de mon vertige. Et il tombera! Dites-lui bien cela, sitôt décroché de sa naissance! Mais de quel toit, celui-ci, l'autre? Serait-il donc un jour possible que je tombe? Mais depuis quand suis-je là, moi qui tombe, dites-moi? Je ne sais plus, d'une chute si longue. Voilà, ainsi s'achève cette deuxième émission en hommage à Roland du Billard. Alors, on doit remercier beaucoup de gens. On doit remercier quelqu'un qui n'est pas nommé dans le générique, qui est Delphine Mélez. On doit remercier aussi notre ami Patrick Vendrin, qui n'est pas avec nous ce soir à la suite d'un malentendu qui ne saurait tarder d'être réparé. Nous remercions aussi, évidemment, les musiciens qui ont fait les musiques de cette émission, Jacques et Paula Morellenbaum. Paula Morellenbaum qui chantait Sabia en portugais, Luis Clavis, extrait de son album Chine, et également, bien sûr, je recite ce disque du Cabaret du Billard qu'on peut trouver toujours sur notre site internet et qui réunit, je crois, une vingtaine de pièces de Roland du Billard, dont deux textes enregistrés par lui-même qu'on a entendus dans cette émission. Voilà, nous nous excusons pour la qualité un peu médiocre de l'interview qu'on a faite, enfin la qualité sonore évidemment de l'interview d'Ariane qui était faite dans un bistrot avec une musique, comme disent nos amis belges, qui n'était pas de notre choix. Voilà, et puis on voudrait toujours vous dire que la BIP, la Brigade d'Intervention Poétique, qui se compose de presque une dizaine de comédiens, est à disposition de projets autour de la poésie, comme vous vous en doutez, de la poésie qu'on essaie de si possible, livrer dans des boîtes pas poussiéreuses et en dehors des confitures académiques. Voilà. Et bien maintenant, à la prochaine. Vous pouvez toujours nous contacter par le mail de la radio et sur le site www.michelarbatz.com. Au revoir.